Yes, we can.
Ils sont vénézuéliens et fuient leur pays.
Depuis des temps immémoriaux, vit ici un peuple qui vénère les femmes. Ce sont les Mozos.
Ici le Monde, c'est un voyage en trois escales sur ce qui fait l'actualité internationale. Premier arrêt, la Turquie. De nombreux réfugiés politiques iraniens y vivent, mais ils risquent chaque jour un peu plus d'être renvoyés en Iran. Et c'est encore plus le cas à chaque visite du président iranien sur le sol turc. Cette semaine, Ebrahim Raisi a rencontré son homologue Recep Tayyip Erdogan. Cette visite, elle a ravivé les craintes des opposants au régime de Téhéran réfugiés en Turquie. Ces dernières années, de plus en plus d'entre eux ont été rendus à l'Iran où certains risquent la prison ou même la peine de mort. Anne Handlauer, vous êtes notre correspondante à Istanbul. Anne, la Turquie abrite donc depuis longtemps des Iraniens menacés par le régime de Téhéran, un régime qui n'hésite pas à traquer ses opposants par-delà les frontières.
Oui, et dans cet exil forcé, pour eux, aucune étape n'est simple, sauf justement le passage de la frontière. Les Iraniens peuvent en effet voyager en Turquie sans visa jusqu'à 90 jours. 2,5 millions d'entre eux l'ont fait l'an dernier, parmi eux des réfugiés politiques, donc qui ne rentrent pas en Iran, et des agents de Téhéran qui sont chargés de les traquer, les menacer, et parfois pire. Ces dernières années, la justice turque a accusé des citoyens iraniens et turcs d'avoir participé à l'assassinat ou à l'enlèvement d'opposants iraniens en Turquie. Cette traque est une des raisons pour lesquelles les opposants iraniens ne se sentent pas en sécurité en Turquie. C'est le cas, par exemple, de Bardia Moussavi, ce militant des droits humains, arrêté plusieurs fois après les manifestations de novembre 2019 en Iran, s'est enfui en Turquie en février 2020. Bardia Moussavi reçoit régulièrement des menaces de mort sur son téléphone. Pire, il y a eu des attaques physiques à Istanbul, ainsi qu'il le raconte.
Il y en a eu beaucoup. J'ai notamment été attaqué en novembre 2022 pendant les manifestations en Iran. J'ai perdu 6 dents. Mes agresseurs parlaient persan. Ça s'est passé devant chez moi. Ils sont arrivés à moto. Ils m'ont frappé au visage et ils sont partis. Ici, on risque notre vie. C'est devenu la routine.
Alors Bardia Moussavi, qui réside en Turquie avec un permis de séjour, essaye d'obtenir un visa pour la France ou l'Allemagne. Il explique, sans entrer dans les détails, que les autorités turques lui ont demandé de partir pour sa sécurité.
Anne, les opposants iraniens réfugiés en Turquie craignent aussi d'être expulsés vers l'Iran. On le disait, ces craintes sont-elles fondées?
Alors malheureusement, oui. Le nombre des expulsions augmente. C'est ce que constatent tous les avocats et les ONG qui travaillent aux côtés des réfugiés iraniens. C'est notamment le cas de Sali Efe, un avocat qui est établi dans la capitale turque, Ankara.
Ces dernières années, de très nombreux réfugiés iraniens ont été expulsés de Turquie de manière non conforme au droit. Cela arrivait aussi autrefois, mais certainement pas dans ces proportions. Les réfugiés politiques, les journalistes sont particulièrement concernés. Certains sont expulsés de manière secrète et totalement illégale.
De façon générale, les arrestations et les expulsions d'étrangers, iraniens ou autres d'ailleurs, ont beaucoup augmenté ces dernières années en Turquie. Pourquoi ?
Alors, il faut souvenir que dans les années 2010, la Turquie a accueilli des millions de réfugiés fuyant la Syrie voisine. Elle est devenue le principal pays d'accueil de réfugiés au monde et 3,5 millions de Syriens vivent encore en Turquie. Or, avec le temps, la population turque est devenue de plus en plus hostile aux réfugiés. Résultat, les autorités d'Ankara ne veulent plus en accueillir et avec ces expulsions massives, elles veulent le faire savoir à ceux qui tentent de venir, mais aussi à l'opinion turque. Par ailleurs, dans le cas des Iraniens, surtout lorsqu'il s'agit de réfugiés politiques. Ce contexte national se double d'enjeux liés aux relations entre Ankara et Téhéran. C'est ce qu'observe le journaliste iranien Peyman Aref.
Ces dernières années, les relations turco-iraniennes sont passées de la rivalité à la coopération. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de divergence, mais globalement, nous avons affaire à deux régimes autoritaires qui ont des relations très étroites, en particulier au niveau des services de renseignement. Les réfugiés politiques sont utilisés comme des instruments dans un marchandage d'intérêts entre la Turquie et l'Iran.
Plusieurs fois détenu en Iran, ce journaliste a fui en Turquie en 2015, avant d'être expulsé vers le Liban fin 2016 pour ses critiques contre le président Erdogan. Il est aujourd'hui réfugié à Londres.
Un développement et des rencontres signé Anne Handlauer, notre correspondante en Turquie. Direction l'Allemagne à présent, où les agriculteurs manifestent depuis plusieurs semaines, une mobilisation du monde agricole qui s'est étendue à toute l'Europe, en France et en Belgique notamment, mais c'est bien en Allemagne qu'est né le mouvement le mois dernier. Les exploitants protestent, entre autres, contre la suppression d'avantages fiscaux sur le diesel agricole. Et beaucoup ont le sentiment d'être abandonnés et incompris, Sébastien Baer.
Oui, comme Alexander Otto. Dans son exploitation, située à 200 km au sud de Berlin, il élève 440 vaches laitières et produit des céréales. À 34 ans seulement, Alexander est l'un des deux responsables de cette ferme qui emploie 45 personnes. Le jeune agriculteur a fait ses calculs. La fin de l'exonération sur le diesel agricole lui fera perdre près de 100 000 euros chaque année.
Nous avons 25 tracteurs, 4 moissonneuses-batteuses, avec l'interdiction du glyphosate qui est en suspens, on doit travailler de plus en plus avec les machines et donc on a besoin de plus de diesel. Avec l'augmentation des frais de personnel et du fourrage, c'est difficile, d'autant que sur le marché mondial, les prix des céréales ont chuté ces derniers temps.
Le jeune exploitant a donc dû se résigner à reporter ses investissements et notamment l'installation d'une nouvelle salle de traite. Près de Leipzig, Diana Lemitz produit depuis une trentaine d'années de l'orge, du blé, du colza et du maïs. Elle est allée manifester plusieurs fois à Dresde.
Nous sommes restés silencieux trop longtemps, bien trop longtemps. Nous sommes mécontents depuis des années. Nous avons tellement de réglementations, tellement d'interdictions et une bureaucratie poussée à l'extrême. C'est vraiment pesant. Pourtant, nous avons de bonnes terres et des agriculteurs très bien formés. Il faut juste nous faire confiance. Ce n'est pas le cas et c'est triste.
Pour la plupart des agriculteurs, les dernières années n'ont pourtant pas été si mauvaises. Mais l'augmentation des coûts de production et la chute des cours ont épuisé les réserves et les importations de céréales ukrainiennes bouleversent la concurrence. Dans le hangar de Jörg Nindorf, un stock de colza attend d'être vendu.
Nous recevons du blé et du colza en provenance d'Ukraine et cela casse nos prix. Ils peuvent produire tant qu'ils veulent et utiliser des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous depuis des dizaines d'années et personne ne vient les contrôler. J'ai beaucoup de peine pour ces gens-là, mais il faudrait quand même essayer de remettre de l'ordre sur le marché, et ce n'est pas le cas actuellement.
Sébastien, les agriculteurs restent donc mobilisés à travers tout le pays, même si ça fait plusieurs semaines maintenant que le mouvement a débuté.
Oui, avec des barrages sur les bretelles d'autoroute et des rassemblements comme ici dans la zone industrielle de Damme, à 2 heures de Berlin. 300 personnes, une soixantaine de tracteurs, moteurs en marche et gyrophares qui scintillent dans la nuit, les pieds dans la neige, Guido se réchauffe près du grand feu de camp.
Il faut continuer, on ne peut pas baisser les bras maintenant. Je suis travailleur indépendant et ma femme aussi, et on ne s'en sort plus. Si ça continue, on va tous faire faillite. Le gouvernement ne veut pas voir ce qui se passe dans la rue. Moi, je reviendrai manifester lundi prochain et aussi longtemps qu'il faudra.
Autour du feu, les agriculteurs se réconfortent, mais certains s'interrogent sur l'efficacité du mouvement. Après un mois de blocage, ils n'ont rien obtenu. La mobilisation des agriculteurs français inspire Marco, 53 ans, qui termine sa saucisse.
Nous, les Allemands, nous sommes trop sages. On observe avec envie à la télé le courage des Français et les actions qu'ils mènent pour attirer l'attention. Avec les gilets jaunes, les agriculteurs, ils ont coupé les routes, ils ont fait des feux, déversé du fumier. Et on se dit, oh, on devrait le faire aussi. Mais nous n'osons pas.
Le parti d'extrême droite AfD a multiplié les signes de soutien aux agriculteurs ces dernières semaines. Dans cette région du Brandebourg, où auront lieu des élections en septembre, l'AfD a atteint 30% d'intention de vote. Le chancelier Olaf Scholz a condamné toute tentative de récupération du mouvement.
Un reportage de Sébastien Baer, notre confrère de France Inter en Allemagne. Et dernier arrêt en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est une région du monde dont on parle souvent pour ses guerres civiles et ses coups d'État, comme au Niger ou au Mali dernièrement. Mais il y a une exception dans cette région, le Libéria, qui encore une fois a mené la transition d'un gouvernement démocratiquement élu à un autre, et ce de manière pacifique, sans coup d'État. Le nouveau président Joseph Boakai a prêté serment cette semaine. Le Libéria est pourtant un pays qui revient de loin après près de 15 ans de guerre civile et une épidémie d'Ebola dévastatrice. Vincent Hugues, vous êtes journaliste indépendant, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique de l'Ouest. Une transition pacifique, on le disait, ça ne veut pas dire une transition totalement sans tension.
Il y a eu quand même quelques accrochages meurtriers pendant la campagne électorale, hein, 3 morts dans le nord-ouest du pays, et puis ensuite cette voiture qui a foncé dans la foule des partisans de l'élu Joseph Boakai. Mais c'est vrai qu'au regard de la violence qui a marqué l'histoire politique du Liberia, c'est avec un réel soulagement que des instances telles que l'Union européenne ou la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest a salué le déroulement de cette élection, le fait qu'elle ait pu se tenir dans des conditions acceptables et que par ailleurs, George Weah, donc le sortant, qui a été battu d'extrême justesse, hein, 20 000 voix environ, au profit de Joseph Boakai, son rival, et d'emblée, avant même la proclamation officielle du verdict des urnes, reconnu sa défaite.
Et quels sont les éléments qui ont permis justement cette transition pacifique ?
Eh bien, il est clair que le comportement responsable du sortant et de son rival, les engagements qui avaient été pris dès avril dernier, avec le concours des Nations Unies d'ailleurs, de l'Union européenne et des instances régionales africaines, engagement à respecter le verdict des urnes et à ne pas recourir à la violence de type milicienne pendant la campagne, bon, même s'il y a eu quelques coups de canif dans le contrat, tout cela évidemment a contribué à pacifier l'atmosphère. Et j'ajoute que les Libériens sont traumatisés par précisément la violence extrême qui a marqué leur histoire politique et qu'ils étaient eux-mêmes désireux d'un scrutin apaisé.
Cette particularité du Liberia ne l'empêche pas d'avoir encore de gros défis à relever, comme ses voisins finalement. Quels sont ces grands défis d'ailleurs ?
La population du Liberia, un peu plus de 5 millions d'âmes, est à 60% jeunes, moins de 25 ans. Vous avez des défis liés à la vie quotidienne, aux services de base, au prix des denrées alimentaires. Vous avez le phénomène de la corruption. Chaque nouveau chef d'État de ce pays s'engage à la combattre et à l'éradiquer et n'y parvient pas. Et puis, vous avez aussi la question de la mémoire de la guerre civile, puisque tous les présidents depuis Ellen Johnson Sirleaf s'étaient engagés à créer un tribunal pour juger les crimes de guerre et qu'aucun n'a tenu sa promesse. Et j'ajoute aussi des défis liés à la drogue, à la criminalité transnationale, etc. etc.
Est-ce que les autres pays de la région pourraient s'inspirer de la situation politique du Liberia ?
Aujourd'hui, je ne dirais pas que le Liberia fait figure d'exemple, mais en tout cas, il fait figure d'exception. Il va à contre-courant d'un tsunami de coups d'État, hein, Mali, Niger, Burkina Faso, Guinée, Tchad, Gabon, etc. Et donc, que ce soit un pays qui a une histoire tourmentée, qui aujourd'hui soit le théâtre d'une dévolution du pouvoir, je dirais, normale, constitutionnelle, c'est effectivement un des rares signaux rassurants. Pour autant, ne noircissons pas à l'excès le tableau. Vous avez d'autres pays d'Afrique, et notamment d'Afrique de l'Ouest, qui ont été le théâtre d'alternance relativement normale. Je fais allusion ici au Sénégal, même si sa vie politique est extrêmement tumultueuse, comme on le sait, le Ghana, le Botswana en Afrique australe, le Cap-Vert pour revenir en Afrique de l'Ouest, ou l'île Maurice. Donc cette idée assez funeste qui avait été un temps véhiculée par le défunt Jacques Chirac, l'ancien président français, sur laquelle, je le cite, « l'Afrique ne serait pas mûre pour la démocratie », c'est évidemment un raccourci essentialiste qui est totalement inepte et qui est démenti par la réalité des faits.
Merci Vincent Hugues pour votre éclairage. Le Liberia, je le rappelle, c'est aussi le premier pays du continent africain à avoir élu à sa tête une femme, Ellen Johnson Sirleaf, en 2005. Une autre exception. Voilà qui referme ce nouveau numéro d'Ici le Monde. Merci d'avoir embarqué avec nous dans ce tour du monde de l'actualité.